Il fait partie de ces chanteurs dont les chansons ont réellement accompagné la vie des gens. Depuis la fin des années 60, Daniel Guichard a imposé une voix, un parler, une façon directe de raconter la vie, l'amour, la famille, avec des titres devenus incontournables, hein, La tendresse, Mon vieux, Le gitan, Faut pas pleurer comme ça, ou encore Je t'aime, tu vois. Ce soir, il sera sur la scène de l'auditorium Jacques Brel, en Belgique, pour un concert exceptionnel. Et bien avant de le retrouver sur scène, on va revenir sur son histoire, sur ses chansons, ses envies, ses combats d'aujourd'hui. Bonjour Daniel Guichard.
Bonjour.
Merci d'être avec nous.
C'est un plaisir.
Sur Télémélodie, voilà, on vous suit depuis tant d'années. Tant d'années où vous faites des concerts, vous remplissez les salles, qu'est-ce que ça vous fait toujours d'être devant ce public?
Je ne me pose pas la question en plus. Je crois que la chance de ne pas avoir eu de patron, ou très peu, j'ai eu très peu de patrons dans ma vie. Je suis sorti du lycée, je travaillais un peu au Hall, j'ai travaillé un peu chez Barclay en étant artiste. Je n'ai pas eu beaucoup de gens qui m'ont dit « faut faire comme ceci, faut faire comme cela ». Alors j'ai fait plein de choses, j'ai fait ce que je voulais, je n'ai pas tout réussi, mais je suis content d'être là où je suis.
Ouais. Vous avez mené votre vie... Comme vous l'avez entendu, on y reviendra sur cette indépendance dans les... quand vous avez...
Ça coûte cher, hein, je vous le dis tout de suite.
Ouais.
L'indépendance et la liberté, c'est ce qui coûte le plus cher.
Ah bon, pourquoi ?
À tous les niveaux. C'est ce qui coûte le plus cher d'abord financièrement,
ouais.
Parce que vous gagnez beaucoup moins d'argent que si vous êtes dans des structures qui fonctionnent très bien. Ça coûte beaucoup de temps, beaucoup de sentiments dans la mesure où vous vous trompez souvent. Quand vous êtes libre, vous êtes obligé de dire des conneries, de faire des conneries et de faire des choix qui ne sont jamais les meilleurs. Mmh. Parce que la seule rencontre intellectuelle que vous avez, en général, c'est vous. Donc, vous n'êtes pas le meilleur des conseils. Mais quand ça veut bien fonctionner, je peux vous garantir que c'est vraiment plaisant de se dire « j'ai fait un truc et je l'ai réussi ».
Et ça fait des dizaines d'années que tournez. On a des tubes, hein, j'en ai donné quelques-uns, Mon vieux, La tendresse, Faut pas pleurer comme ça. Est-ce que les tours de chant se ressemblent? Vous ajoutez des nouvelles chansons ou...
Je vais vous dire franchement, année après année, j'ai structuré un tour de chant et là, il est en place depuis un an et demi, deux ans. Il y a les essentiels, c'est-à-dire qu'il n'est pas concevable de ne pas chanter Mon vieux, La tendresse, Je t'aime, tu vois, Chanson pour Anna, Le gitan, ces choses-là. Et puis il y a des chansons, il n'y a pas beaucoup de chansons nouvelles, si. Il y en a quelques-unes, mais pas beaucoup. Et il y a des chansons qui sont ce qu'on appelait des phases B. Vous n'étiez pas né à l'époque quand on faisait les 45 tours. Mais du côté des vinyles, quand vous faisiez un tube, genre « Je t'aime, tu vois », de l'autre côté, vous aviez un titre fort que personne connaissait. Du côté de Mon vieux, je crois que c'était « Envoyer la musique ». C'est la tendresse, c'est « Envoyer la musique » de l'autre côté. Bon, peu importe, ce n'est pas très important. Et il y a des chansons que les gens ne connaissaient pas, parce qu'elles ne passaient jamais à la radio, parce que vous ne faisiez jamais de télévision avec ces chansons-là. Vous avez un tube, quand c'est un tube, c'est un truc énorme. « Je viens pas de parler d'amour », c'est une chanson qui a été énorme. Les autres chansons de l'album, on ne les a pas entendues, quoi. Ouais. Donc, le tour de chant s'est construit année après année. Il y a des chansons comme « J'aimerais »,« Ce n'est pas à Dieu que j'en veux »,« L'Indien », des chansons que les gens ne connaissaient pas. Et il arrive de temps en temps qu'à la fin d'un spectacle, il y a des gens qui disent « Ah, elle est toute nouvelle, la chanson « Ce n'est pas à Dieu » ou « L'Indien ». Non, tu as raison, elle a plus de 50 ans, mais c'est bien.
Et d'ailleurs, vous enchaînez dans vos concerts, j'avais remarqué dans le CD Live de 2015, vous enchaînez une chanson joyeuse, une chanson plus calme.
Souvent.
Ouais.
Souvent, il faut avoir une espèce de comment dire, il faut prendre les sujets, les harmonies, les tempos pour que ce soit relativement équilibré. À partir du moment où vous rentrez sur scène, la première chose que le spectateur fait, moi je l'ai constaté en tant que spectateur souvent, il décortique l'artiste, il déshabille, voir comment il est habillé, comment il se présente, est-ce qu'il est bien coiffé, est-ce que la braguette du pantalon est fermée, enfin s'il est au premier rang, parce que ça sera une anecdote dont on parlera, mais arrivé un jour tellement pressé, je suis rentré le pantalon, la braguette était ouverte, et avec les premiers rangs qui l'avait vu, il y en avait un qui me faisait signe, c'est un copain, on en reparlera plus tard. Mais donc, la première chanson, vous êtes un peu décortiqué et après, il faut que ça, dézingue, il faut que ça parte. Et il faut que les émotions, les mots, les sujets fassent que vous êtes pris dans une ambiance qui fait que c'est presque confidentiel, c'est presque que pour vous que le tour de chant se passe. Et quand à la fin d'un spectacle, des gens viennent me dire « Ah, on n'a pas vu le temps passer »,
vous avez gagné.
Alors, si en plus ils me disent on a adoré, bon, mais personne ne les a obligés à venir. S'ils sont venus, c'est parce qu'ils m'aimaient bien ou parce que je représentais vraiment un intérêt pour eux au niveau émotionnel ou chanson. Mais quand ils vous disent on n'a pas vu le temps passer, ça dure deux heures quand même.
Et vous avez, voilà, vous avez embarqué votre public. Vous commencez souvent ou pas par le gitan?
Non, c'est après l'entracte. Il y a un entracte. Okay. Et je fais le gitan pour commencer, parce que c'est l'ambiance, on s'y met, et youpi, c'est reparti. C'est comme ça.
Vous avez grandi rue Saint-Martin, vous avez travaillé très jeune aux Halles.
Oui.
Qu'est-ce qui vous a donné l'envie de faire ce métier ?
D'abord parce que j'ai toujours voulu faire chanteur avec des copains. Alors j'ai essayé de faire un groupe de rock'n'roll et puis j'étais tout seul. Donc comme chantait Coluche, on est une bande de jeunes, on se fend la gueule, mais j'étais tout seul. Donc j'ai pris la guitare et j'ai commencé à faire des chansons qui valaient pas tripette, elles valaient rien du tout. Elles étaient mignonnes, quoi. Mais j'avais envie de chanter et je chantais, surtout, j'avais 15 ans, je chantais les chansons d'Hugo Frey. Et Bob Dylan et Hugo Frey. C'était mieux Hugo Frey que Bob Dylan parce que mon accent était terrible. D'ailleurs, c'est une anecdote. Un jour, j'ai essayé de faire des chansons, mes chansons. Je les ai chantées en chinois, je les ai chantées en allemand, en italien. Mais j'ai essayé en anglais. Et c'était terrible. C'était nul. C'était Bob Dylan.
Mais en espagnol, ça a marché, hein.
Oui.
Elle a mort.
Elle a mort. Mais c'était marrant, d'ailleurs, parce que comment Iglesias, quand il a fait ça, cataclysme.
Pour vous, il y a une retombée énorme.
Ah ouais, c'est un cataclysme. Oui, non, mais c'était bien. Elle a mort. Mais je ne me vois pas chanter. Elle a mort. Avec
et donc,
l'œil qui frise.
Et donc, c'était au fond de vous. Vous êtes dit, voilà, moi, je veux faire chanteur et je fais ce métier.
Oui, c'est ça. Je voulais faire chanteur. Et quand j'ai commencé à muer, ma mère n'a pas apprécié. Parce que 14, 15 ans, ça allait. Mais après, j'avais la voix qui ne ressemblait plus à ce que je chantais quand j'avais 5, 6 ans sur les marches de l'escalier, quoi. Mm-hmm. J'ai chanté les chansons de Tino Rossi. Alors, un jour, j'ai dit à Tino Rossi.
Marinella.
Mais je chantais Marinella.
Okay.
Et puis, je lui ai dit, tu sais, quand j'étais petit, je chantais tes chansons. Et ma mère, elle n'a pas apprécié ma mue parce que je commençais à faire du rock'n'roll. Et ce n'était pas ça. Mais non, je voulais faire chanteur. Alors, j'ai quitté le lycée, c'était en première. Je suis allé travailler aux Halles parce que j'étais dans le quartier des Halles, donc je travaillais là. J'ai passé des auditions dans des maisons de disques. Je me suis fait virer quasiment de partout. Et puis, j'ai eu un contrat chez Barclay. Il ne s'est rien passé pendant 3 ans, 2 ans et demi, 3 ans. Je travaillais au stock parce qu'il n'y a pas de sous-métier.
Oui, c'est ça la légende, soi-disant, vous étiez magasinier chez
Barclay.
Non,
c'est pipeau.
C'est
ça.
Du pipeau, voilà.
Oui, c'est du semi-pipeau, mais c'est bien pour faire pleurer dans les chaumières. Mais en réalité, non, j'étais artiste, j'avais un contrat pour faire un disque par an. Mm-hmm. Et puis, on en avait fait un en 69, enfin, j'en avais fait un en 68, rien du tout, on a vendu 12, et un autre en 69 qui intéressait personne. Mais il fallait gagner sa vie, donc j'étais dans le milieu du disque, je travaillais dans le milieu du disque. J'ai travaillé au stock, j'ai fait de la direction artistique, j'étais assistant de direction artistique. Ça veut dire que je gérais les séances d'enregistrement de certains artistes, dont Delpech, entre autres.
Avec Gérard Metz.
Non, ça, Gérard Metz, il était éditeur.
D'accord.
Gérard Metz, il était l'éditeur des chansons, c'est comme ça que j'ai récupéré la chanson de Mon Vieux. Parce que quand on a fait un tube, La Tendresse, puis qu'on fait un deuxième tube, faut pas pleurer comme ça. Il est évident que les éditeurs envoient des chansons, c'est ce qui se passait à l'époque. Donc, on recevait des petits bobineaux de bande magnétique qu'on mettait sur le Revox et puis on l'écoutait et puis on disait non, parce qu'il y avait quand même plein de trucs qui ne m'intéressaient pas. Et puis, j'avais reçu plein de chansons de différents éditeurs, dont Gérard Metz. J'avais écouté un titre ou deux, puis je les avais mis dans une caisse. Et puis, c'était en 70-71 que j'avais reçu ça. Et en 73, en faisant le rangement, le ménage, j'ai écouté différents titres et j'ai entendu Ferrat qui chantait avec sa guitare, poum, poum, dans son vieux, par-dessus rap.
En bossa nova.
En bossa nova, avec le chien qui aboyait et tout, c'était sympa. Et j'ai changé les paroles parce que j'ai demandé, est-ce que je peux changer les paroles? Ça ne me correspondait pas, la majorité des paroles, mais le par-dessus rapé, oui.
Parce que cette chanson, on prend un peu de l'avance, mais on y va. Elle avait été enregistrée 2 fois, Jean-Louis Stein et une autre personne.
J'ai oublié, c'était les copains à Jean Ferrat et c'était les paroles de Michel Senlis. Et Michel Senlis avait fait une chanson en pensant à son père qui travaillait au chemin de fer, blablabla. Et elle n'a pas du tout aimé ma façon de chanter. Elle m'a fait la gueule pendant des années, des procès. Bon, paix à son âme, mais c'est pas grave. Et j'ai changé les paroles parce qu'on m'a autorisé. On ne peut pas changer les paroles d'une chanson comme ça. Et les paroles que j'ai écrites, elles concernaient ma vie. C'était comme ça que ma vie se passait. Mon père, il partait avec son par-dessus un peu râpé. Et il prenait le premier métro et il rentrait à 7h du soir de la banlieue parisienne en usine. Voilà, c'est tout.
Et vous avez frappé juste. Puisque,
je voulais faire une chanson sur mon père.
50 ans après.
Voilà, je voulais faire une chanson qui aurait parlé de mon père et j'y arrivais pas, j'avais pas les mots. Et quand j'ai entendu ce truc-là, je me suis dit, le vieux par-dessus râpé, il s'en allait vers l'été dans le petit matin frileux, mon vieux. C'était comme ça le début de la chanson. Après, il y a des choses qui ne me concernaient pas du tout.
Et mon vieux, vous la chantez différemment aujourd'hui. Sur le disque, vous, vous en voyez beaucoup. Maintenant,
mais c'est autre chose.
Beaucoup plus calme.
C'est toujours... Il faut savoir que quand on rentrait dans un studio d'enregistrement avec un orchestrateur et un directeur artistique, il y avait du monde et ça coûtait très cher.
D'accord.
Donc, vous preniez votre guitare avec le directeur artistique, vous jouez la chanson, il prend ça, il le donne à un orchestrateur et vous vous retrouvez avec des violons, des machins, des trucs. Ça coûtait vraiment une fortune et vous n'avez pas grand-chose à dire. Sinon, vous chantez le truc. Puis, au fur et à mesure que les années ont passé, j'ai fait ce que j'ai voulu sur scène. Donc, il y a des moments où je pourrais même la chanter sans rien derrière.
Et vous l'avez fait d'ailleurs, il y a une petite capsule
qu'on peut retrouver.
Ouais.
J'ai déjà fait ça.
Et la rendre plus calme peut-être, ça la rend encore plus émouvante.
Mais parce que, pour une raison très simple, c'est une chanson qui, les années passant, elle a 50 ans. Non, un peu plus, 52 ans. C'est ça, 73. C'est en 73, oui.
Ouais, donc 53 ans, 52
52, 53. Bon, on n'est pas à un an ou deux de près, c'est pas grave.
On est d'accord.
Et c'est vrai que cette chanson, elle a évolué parce que, d'abord, j'ai évolué. Et puis, cette chanson qui est devenue un succès, est devenue un énorme truc, est devenue la mémoire collective chez des gens. Donc, il y a un moment, le cinéma ne sert à rien. Ce n'est pas la peine de frimer derrière. Moins on en fait, mieux c'est. Et je sais qu'au moment où je la chante, les gens... Il se passe plein de trucs dans leur tête. L'émotion qui vient à la fin est une chose, mais il se passe plein de trucs dans la tête. Et moi, je le ressens sur scène. Vous ne pouvez pas savoir ce que je ressens quand je chante cette chanson, que ce soit une salle avec 800 places, 700 places, 1500 places. J'ai chanté devant 15 000 personnes. Vous avez un silence monstrueux et vous savez qu'il se passe plein de trucs à l'extérieur. Il se passe vraiment plein de choses. Et là, il ne faut pas faire de cinéma. C'est vous la chantez ou vous ne la chantez pas. Vous la ressentez ou vous ne la ressentez pas. Et moi, je n'ai pas un déclic. Quand je rentre sur scène, c'est fini. C'est moi qui commande. Même si quelqu'un de bourré monte sur scène, veut m'embrasser les mains et tout, m'en fous, c'est moi le patron, je me débrouille. C'est une galère, mais je me débrouille. Et à partir de là, vous ressentez tout ce qui se passe.
Et vous, peut-être, vous y pensez à votre papa qui est parti
souvent, oui.
Quand vous chantez cette chanson.
Je pense, et tous les jours, j'ai une bougie que j'allume
ouais.
Donc, chez moi, donc ça va.
Et sur scène, quand vous justement, quand
il y a cette chanson. J'y pense, oui, je me suis fait piéger par ma chanson plusieurs fois, oui. Quand je dis « me suis fait piéger », je me suis fait prendre par la chanson. Il y a un moment, il faut que j'arrête là. Ça va couler, je vais y aller. Mais,
On va poursuivre un petit peu de votre éducation. Vous avez aussi quelque chose d'assez marrant, vous l'avez dit plusieurs fois. Ça vient d'où le conseil que vous a donné votre maman de garder
l'argent,
toujours 50 euros ou...
J'ai des sous, j'en ai là aussi. Je suis en train de parler avec vous, je fais le chanteur, j'ai des sous dans ma poche.
Ouais. Pourquoi ?
Parce que ma mère m'a dit un jour... Il n'y a pas longtemps, il y a une dizaine, une quinzaine d'années, un peu plus d'ailleurs, parce qu'elle est partie il y a quand même... Oh là là, elle est partie il y a un moment. Mais bon, elle m'avait dit, l'argent va à l'argent. Si tu fais le chanteur, tu chantes, il faut que tu aies de l'argent dans ta poche. Toujours. Promets-le. J'ai dit, je te promets. Et je lui ai promis et je le fais. Et toujours, quand je suis en train de faire le chanteur, parce que là, je suis en train de faire le chanteur, parce que c'est comme ça, vous n'êtes pas en train de questionner et d'interviewer un charcutier, donc là, j'ai de l'argent dans ma poche, oui. Toujours. Et si j'en avais pas, je vous en aurais demandé.
Ah oui, j'en ai aussi.
Oui, non, mais je vous
le mien avait dit la même chose.
Alors, ça va. Mais c'est une bonne promesse. Quand on fait une promesse, il faut la tenir.
Mais c'est important et c'est rare aujourd'hui. Quand de votre parcours, vous partez dans les cabarets, ça commence difficilement. Comment vous vivez cette période de des halles à la tendresse? Quand vous chantez devant peu de personnes entre...
Oh là là, les cabarets, ça a été un truc très marrant parce que au tout début que j'étais chez Barclay, j'habitais à Montmartre, un petit appartement, un petit truc, dernier étage à Montmartre. Et puis comme ça a commencé à marcher, je suis allé habiter à côté de chez Barclay à Neuilly. Et puis, résultat des courses, tous les cabarets étaient à Montmartre. Alors, tous les soirs, je partais en Solex, avec mon vélo Solex, avec la guitare dans le dos, et j'allais faire des cabarets. Je ne gagnais pas beaucoup d'argent, mais c'était
l'aventure.
Oui, mais c'était sympa, parce que de savoir que je suis passé à peu près dans tous les cabarets où Brel a chanté, entre autres, à titre de parenthèse, tout le monde faisait 3-4 cabarets par
an. Sur le toit, c'est ça
les... Oui, non, mais la Grange au Bouc, ma cousine, enfin, tous ces trucs-là, on les a fait. Et en fait, c'était le meilleur moyen d'apprendre des choses, parce que là, vous apprenez des choses. Quand vous faites certains cabarets, il y en avait un, comment il s'appelait j'ai fait le Port du Salut, je me rappelle plus de tous les noms des cabarets que j'ai fait. Et il y en a un, quand je chantais tous les soirs, il y avait un matador espagnol qui vivait à Montmartre. qui était avec un pote ou deux, et ils étaient quelquefois deux ou trois clients, pas plus. Et tous les soirs, il faut chanter les trois mêmes chansons ou les quatre mêmes chansons. Vous apprenez déjà à vous concentrer. Ensuite, quand il y a un mec bourré dans la salle, il ne faut pas avoir peur de le remettre à sa place. Alors au début, vous ne savez pas, puis vous voyez les autres artistes de cabaret qui se démerdent très bien avec de l'humour, sans méchanceté. Ouais. Hein. Ça se passe avec de l'humour, et puis vous apprenez à gérer. Et être sur scène, c'est quelque chose qu'on apprend à gérer. Si j'y suis, c'est parce que j'y suis bien. Personne ne m'a obligé d'y aller. Donc, j'ai pas envie qu'on m'emmerde. À partir du moment où je chante, si t'es pas contente, t'arrêtes de me gonfler. Et j'en ai eu des gens, vous voyez, j'en ai qui sont montés sur scène. Même une qui dansait des trucs espagnols. Ça n'a aucune importance. Vous gérez.
Et le trac dans tout ça, alors?
Alors, au début, j'avais le trac. Oui. Au début, j'avais le trac. Oui. J'avais le trac. Au cabaret, pas trop, parce qu'on finissait par être un peu d'émotion. Mais les spectacles, quand vous y allez et qu'il y a 1000, 2000, 3000 personnes et que vous êtes en première partie de quelqu'un, hein, parce que j'étais pas vedette. Là, il y a l'estomac qui est un peu noué. Puis petit à petit, la maîtrise est là, dans la mesure où vous vous dites que la majorité des gens qui viennent, viennent parce qu'ils m'aiment bien. Donc pourquoi je vais avoir une émotion d'angoisse? Par contre, j'ai le souci de tout vérifier. Ça, c'est comme vous allez commencer votre interview, vous regardez vos caméras, vous regardez vos lumières. Bon, une fois que c'est parti, ça roule. Et puis on se débrouille, on verra. Comme on dit, on se verra sur le tas de sable à la fin, puis on fera le tri et on verra. Mais l'émotion, si, il n'y a pas d'appréhension particulière, il y a une espèce de concentration, c'est un métier sérieux. C'est sérieux à partir du moment où il y a des gens en face de vous qui ont payé. Quelquefois, c'est gratuit, mais c'est la mairie qui a payé, ça n'a aucune importance, et qui sont là. Et à partir de là, il faut les respecter, parce qu'ils vous respectent, parce qu'ils vous aiment. Et à partir de ce moment-là, bah, on est entre potes, quoi.
Et on y reviendra quand vous faisiez les grandes émissions de variété. Peut-être on reparlera de ce track. En 72, c'est La Tendresse, 71.
En fait, La Tendresse, c'était 70.
OK.
C'est sorti en début de l'année 70, si ma mémoire est bonne. C'est pas passé en radio, tout le monde s'en foutait, j'avais un accent parisien insupportable. Et puis il y a des gens que ça gonflait. Franchement, je devais irriter certaines personnes. J'étais le titi parisien type. Renaud m'a confié qu'il connaissait toutes mes chansons, mais toutes. Hein. Donc ce qu'on a raté avec moi, parce qu'il voulait faire le titi parisien chez Barclay, ils se sont vautrés lamentablement. Et lui, ils l'ont réussi. Enfin, c'est pas Barclay, mais il connaissait toutes les chansons. Et c'était assez marrant. D'ailleurs, quand j'ai commencé chez Barclay, il y avait quelques artistes qui marchaient pas du tout. Alors, pas du tout. Il y avait C'est Jérôme, qui est parti de chez Barclay. Ils lui ont rendu son contrat. Il était Kiss me, adieu l'ami. C'était un bon pote. C'était le plus gentil de ce métier. Et il est donc parti. Il y en avait un autre qui marchait pas du tout, mais qui vendait pas de disques du tout. C'était Sardou.
C'est très marrant.
Il est parti avec Talard et Revaux. Et j'étais, moi, qui bricolais dans le sous-sol de chez Barclay. J'avais bricolé tout l'intérieur du studio, nettoyé tout ça. Et il répétait, les bals populaires. Faut être con. Et La Maladie d'amour. Dans le studio de chez Barclay, de répétition au studio. Ils n'étaient pas foutus de se dire, mais il ne faut pas le laisser partir. Ils ont dit au revoir, et Tréma, ils sont allés, ils ont tout cartonné. Bon. Il y en avait un autre qui ne marchait pas du tout, c'était Dev.
D'accord.
Dev, oui, ils m'ont dit au revoir, et il est parti, pouf, panina. Ils avaient du talent chez Barclay à l'époque. Oui.
Et vous faites un énorme carton après avec La Tendresse.
Oui, mais le carton, j'ai commencé en disant, début de l'année, pas passé. Mais vraiment pas passé. Et à l'époque, dans les discothèques, il y avait des slows qui passaient. Et La Tendresse a cartonné dans les discothèques. Et à partir de septembre, octobre, ça a commencé à bouger. Et on a commencé à parler de moi en 71. C'est-à-dire l'année 71, bon, ça a fonctionné. Et j'ai enregistré Faut pas pleurer comme ça, qui était l'album de 72. Quand vous voyez un album, vous voyez la date de l'album. Mais c'était les 45 tours avant.
Qui était sorti. Et vous avez toujours gardé les pieds sur terre quand vous chantez?
Ah non, j'ai déconné.
Vous avez déconné?
Je me la suis pas joué trop, parce que la vie m'avait déjà appris à pas être trop con. Mais je l'étais un peu. Ouais. Si, je me suis un peu abîmé la tête. Ouais. Mais ça n'a pas duré trop longtemps quand même. Mais ça a duré un peu. J'ai fait suffisamment de conneries pour pas en être fier. Mais bon, c'est comme ça.
Et après, vous avez été indépendant, on y reviendra. Donc ça,
oui, c'est-à-dire qu'après, les conneries, vous les payez. C'est-à-dire que comment vous expliquer? C'est une définition que j'ai donnée un jour. S'il fallait expliquer ce qu'est le succès, la notoriété, c'est vous débutez dans la vie, vous passez devant une pâtisserie et vous voyez des gâteaux. Vous dites, ah, j'aimerais bien, ils me font envie, mais j'ai pas les moyens. Puis vous commencez à réussir un petit peu et vous pouvez vous acheter un ou deux gâteaux. Puis d'un seul coup, il y a un énorme succès qui arrive et vous achetez la pâtisserie. Mais d'un seul coup, vous pouvez un peu être à côté de vos pompes. Et c'est ce qui m'est arrivé, comme ça arrive à tout le monde d'ailleurs. C'est pour ça qu'il faut très souvent être compréhensif pour les artistes qui sont un peu chiants. Il ne faut pas être compréhensif pour les porte-valises.
D'accord.
Parce que, et c'est souvent les rouleurs de mécanique et les gens qui entourent sont souvent très cons. Souvent, pas toujours.
Et entre vous, tiens, ça s'est toujours bien passé dans le milieu du showbiz.
Les quelques potes que j'ai eus, oui, ça s'est bien passé. Oui. Je parlais de ces Jérôme qui, pour moi, était le plus gentil de ce métier, le plus gentil. Alors, c'est Jérôme avec Dave, avec c'est Jérôme avec le Normand. Je ne parle pas de jeunes, puisque on est quand même de la même génération, 60, 70, 80. La nouvelle génération, non, parce qu'ils me considèrent comme un monsieur respectable et un vieux chanteur. Mais comme disait c'est Jérôme, on est des vieux chanteurs sympas.
Ouais. c'est une anecdote. Et quand vous chantiez avec Claude François, tiens, parce que je voulais rester un peu sur la tendresse,
ouais.
Je me rappelle, c'était une sacrée ambiance, ces Carpentiers, puisque j'ai regardé l'émission, et à un moment, il vous charrie sur les paroles de la tendresse. C'est toi qui as écrit ça, la tendresse.
Oui, la tendresse. Mais Claude était hyper professionnel. Vrai humour et hyper professionnel.
C'était bon enfant.
Ah oui, mais c'était sérieux, c'était quelqu'un de sérieux. C'est pas quelqu'un qui cassait les pattes pendant l'émission. Le ping-pong jouait vraiment. Il faisait ça à l'américaine, d'ailleurs c'était un des rares à avoir des enregistrements de toutes les émissions américaines pour essayer d'avoir cette espèce de sensibilité qui s'adresse aux téléspectateurs. Parce que lui, quand il faisait une télé, il pensait à ses fans, il pensait aux téléspectateurs, même à ceux qui ne l'aimaient pas. Pour les convaincre.
Et vous, quand vous débarquiez dans un, c'était quoi, un numéro 1 ou un top à Claude
Chez lui,
François?
Oui. J'en ai eu un, moi, à titre personnel.
Bah, ça
non,
fait
parce
quoi?
Que je connaissais un peu Claude et c'était un mec adorable, gentil, vraiment.
Et vous, ça vous fait quoi de passer devant tant de millions
non,
de spectateurs?
Non, vous y êtes, non, vous ne cherchez pas, cassez pas la tête. À partir du moment, si vous me prenez le jour où j'ai fait un truc sur les chansons sur Paname et que vous me mettez chez les Carpentiers, je suis un peu déphasé. Mais il s'est passé quelques années, c'est-à-dire, vous parlez de la tendresse, il ne faut pas pleurer comme ça, vous parlez. J'en étais pas encore à ma distribution et je n'étais pas autonome. Mais c'était les deux premiers titres qui faisaient des cartons énormes. Et puis, il faut surtout se dire que le monde a changé. Il y a moins de spectacles, il n'y a plus d'émissions de variété, il y a tout un tas de choses. C'est-à-dire que les gens qui font de la télévision se foutent complètement des téléspectateurs, c'est une réalité. Ce n'est pas du tout pour critiquer les genres, mais d'ailleurs, le parent pauvre de la télévision à cette époque-là, c'était le rock. Il n'y avait pas beaucoup d'émissions de rock, il n'y avait pas beaucoup d'émissions de trucs.
Alors que ça cartonnait.
Oui, mais il y avait une clientèle énorme. Ouais. Hein, il y avait une clientèle énorme pour le rock. Mais les émissions rock, bon. Mais sinon, la variété, il y en avait partout. Ce qui veut dire que lorsqu'on avait un succès, on faisait entre 150, 160 minimum galas par an. Et moi, j'en ai fait les deux dernières années où j'ai levé le pied parce que je commençais à péter les câbles. Mm-hmm. 76, 77, j'ai dû faire 197 galas dans l'année. Je ne sais pas si vous imaginez. Vous faites 197 spectacles.
Et la voiture?
Vous avez la voiture, mais vous avez les enregistrements, les émissions de télé, vous avez tout ça en plus. Vous êtes à côté de vos pompes, vous prenez pour Dieu ou le copain à Dieu, et vous ratez à peu près tout dans votre vie, quoi.
Et vous parlez des émissions des Carpentiers, est-ce que ça vous manque pas cette variété? Est-ce que Mariti et Gilbert Carpentier, qu'on diffuse sur Mélodie Télé, est-ce que ça ne manque pas cette télévision décomplexée? Je parle en chanson, il y a...
La télévision, elle ne peut plus exister. Déjà, au départ, cette télévision ne peut plus exister parce qu'elle était la consécration de tout ce qui se passait autour et avant.
Okay.
Je m'explique. Vous faites une chanson qui devient un succès. Annie Cordy a fait des énormes... La Bonne du Curé, c'est énorme. Mais vous aviez un maximum d'émissions de télévision. Je vais reprendre ce que j'ai dit une fois. On était dans un cadre où, si vous aviez, même un débutant pouvait se faire connaître très vite, s'il avait du talent. Vous aviez le matin bonheur. 7h30, vous pouviez aller, comme chez les Canadiens. Vous avez matin bonheur. À midi, vous aviez Daniel Gilbert. Bon. L'après-midi, aujourd'hui, madame. Il y avait des variétés, franchement. Dans la fin de l'après-midi, les années se sont succédées, mais dans les derniers temps, après, vous aviez Pascal Sevran. Mais avant, il y en a eu. C'est-à-dire que matin, midi, 2h, 5h, vous aviez déjà des variétés, des petites variétés. Et vous aviez tout ce qui était les FR3. Les FR3 avaient des autonomies.
Ouais.
Vous alliez à Lille, vous alliez à Nice, vous alliez à Marseille, vous alliez à Nantes, vous alliez à Strasbourg, Clermont-Ferrand. Vous aviez des autonomies le samedi. C'est-à-dire, il se faisait une vraie émission de variété qui durait une heure. Bon. Vous aviez, après, les grandes émissions de variété du soir. Vous aviez Guy Lux tous les soirs.
Ouais.
Bon, ce n'est pas les années 70, c'est les années 80 et jusqu'au début
Mitterrand.
Après, ça, c'est parti en sucette. Parce que ce n'est pas parce que c'est Mitterrand qui les a fait partir en sucette. C'est qu'il y avait tout un tas de bras cassés autour de lui qui n'avaient qu'une envie, c'est d'être vizir à la place du vizir et qui ont pris les places. On a viré Daniel Gilbert, c'est, je ne sais plus comment elle s'appelle, la femme du mec qui s'est fait choper à New York en train de s'envoyer
Anne Sinclair.
Voilà, c'est ça, j'ai plus son nom pour femme. Elle a essayé de faire de la variété, elle n'était pas faite pour ça.
Ouais.
Elle était très mauvaise. Mais ils ont viré Daniel Gilbert pour la mettre. Il y a eu comme ça plein de remplacements. Et ça a tué un peu l'esprit.
Et donc, aujourd'hui, c'est ce qui montre qu'il ne peut plus exister. C'est ce que vous êtes en
train
de
dire. Non, ça ne peut plus exister parce que ces émissions de variété qui étaient Patrick Sabatier, Michel Drucker et le reste, et les Carpentiers, c'était la consécration de tout ce qu'il y avait avant. C'était la consécration. Le mercredi, vous aviez Guy Lux qui faisait une grosse variété avec un petit truc tous les soirs. Vous aviez Patrick Sabatier le vendredi. Mmh. Vous aviez Drucker le dimanche après-midi. Vous voyez ce que je veux dire?
Et les Carpentiers.
Et les Carpentiers le samedi soir. C'était leur émission. Donc ça veut dire que quelque part, quand vous aviez bien travaillé partout, dans toutes ces petites émissions, au moment où vous y alliez, vous étiez au niveau. Parce que vous ne pouviez pas. Si vous n'étiez pas au niveau, vous n'y allez pas. Aujourd'hui, quels sont les vecteurs, les courroies de transmission? Il n'y a pas de radio qui fait de la variété. Vraiment, avec un impact en disant, bah, vous faire découvrir des gens, des choses, il n'y en a pas. Ce n'est pas une critique de ce qui se fait, le rap, les variétés, les chansons intellectuelles à la guitare, je m'en fous, il y en a tous les genres et ça a toujours été. Donc si vous n'avez pas ça, pourquoi faire une grande émission de variété? Ça n'a aucun intérêt.
Et en tout cas, vos chansons, elles ont traversé ces émissions de variété.
Mais parce qu'elles font partie, pour certaines personnes, de la mémoire collective de la famille.
Eh bien, tiens, quand vous chantez « Faut pas pleurer comme ça », vous la revoyez, cette fille qui vous avez déjà raconté
ça. J'y pense souvent, parce que cette fille qui pleurait, et moi j'allais chez Barclay, je traversais l'avenue de Neuilly, j'allais à 100 mètres, et de voir cette fille qui pleure, je suis retourné chez moi alors que je ramais. Je l'ai raconté souvent cette histoire, cette anecdote. J'y arrivais pas. Je faisais du cabaret et la chanson sur la mélodie de Christophe, c'était « Le soir, je traîne dans les bars ». Ouais, c'est ça. Le soir, je traîne dans les bars, il y en a qui m'offrent à boire plus qu'il ne faut. On m'écoute parler, on m'écoute chanter jusqu'au dernier métro. Mes joies et mes chagrins s'endorment au matin quand vient l'heure d'oublier la nuit. C'était chiant, impossible. Mais j'étais dans l'ambiance du cabaret, et j'arrivais pas à sortir de là. Et traverser et voir cette fille qui pleure, surmonter, faut pas pleurer comme ça, et c'est parti.
Et vous me dites, vous y pensez
quand souvent, ça m'arrive d'y penser, oui. Et elle vient toujours après, mon vieux.
Pourquoi?
Vous l'avez dit tout à l'heure.
Vos chansons joyeuses.
Papa, boum, et faut pas pleurer comme ça derrière. Et je le fais exprès, et je le dis, et ça fait sourire.
Et des chansons comme Chanson pour Anna, c'est quand même en pleine période des années 70, c'était plutôt joyeux. Il y avait Lama.
Non, mais il y avait Chanson pour Anna, c'était une espèce de symbole. C'était une symbole. Et à l'époque, je présentais cette chanson, c'était le journal d'Anne Frank. Elle a été déportée, elle est morte à Bergen-Belsen, mais c'était une adolescente. Donc c'était un symbole. Tous les soirs à la télé, on avait les bombes au napalm au Vietnam, il y avait des enfants qui couraient sous les bombes, il y avait aussi au Moyen-Orient des trucs à la con qui se passaient avec des mômes qui pleuraient, qui couraient dans tous les sens. C'était un symbole de faire cette chanson. Et en réalité, rien ne s'est arrêté, quoi. Est-ce que les hommes sont toujours cons, comme disait Brel?
Mais c'était osé ou pas? Parce que vous étiez un peu le seul.
Non,
même
non,
si le message sert.
Non, c'était. J'ai chanté cette chanson parce que j'étais touché par le. J'avais lu le journal d'Anne Frank. Et le fait, vous prenez une môme qui a 14-15 ans, qui finit en déportation. Bon, il y en a eu des centaines de milliers qui ont fini leur vie comme ça. Ça veut dire que. Bon, est-ce qu'on doit être négatif? Non, j'en sais rien. Pas.
Est-ce qu'on peut faire encore ce genre de chanson aujourd'hui?
Oh, y en a
pas
qui
sur
font.
Le sujet, sur la
non,
forme.
Il y en a qui se font. La grande difficulté, elle est de faire un descriptif.
D'accord.
Vous n'êtes pas obligé de dire en ce moment, entre Israël, Gaza, le reste, c'est difficile. Je ne me pose pas la question. Moi, je suis né dans un quartier, c'était le quartier juif de Paris, avec... tous les tailleurs, les shtof, qui font c'est pas les schmates, comme ils disent en yiddish. Il y avait tous mes potes au lycée, à la République, ils étaient d'origine, leurs parents étaient d'origine juive, polonais, tchèque, ils avaient été déportés, ils étaient revenus. Il y en avait certains qui avaient les chiffres en bleu sur le bras, donc ça va, on va pas faire du militantisme.
Mais je parlais peut-être pas du sujet, je parlais des chansons qui dénoncent, c'est ça que je...
Ça sert à rien. faites ce que vous voulez, dénoncez ce que vous voulez, allez leur foutre sur la gueule si vous avez envie. Faites ce que vous sentez, surtout, faites ce que vous sentez. Mais méfiez-vous toujours, il y aura toujours des baltringues dans l'ombre qui vous tireront dans les pattes.
Le retour de bâton.
Non, non, non. Prendre un coup sur la gueule parce qu'on attaque des CRS, ça c'est la règle du jeu. On ne va pas jouer aux gendarmes et aux voleurs en demandant aux gendarmes de s'attacher les mains dans le dos. Par contre, les baltringues, c'est les gens que vous ne soupçonnez pas, qui sont dans le show business, qui sont derrière, qu'on ne voit jamais, qui ne parlent pas. Et voilà. Il faut se méfier, ceux-là. Je les connais. Je ne citerai pas de nom, mais j'en connais beaucoup.
Mais je vous... Il n'y a pas de problème. Il y a des chansons, on va peut-être... Voilà, aussi, vous êtes un amateur de chansons françaises. Il est peut-être derrière moi, je ne sais pas dans quel plan.
Oui.
Les chansons que j'aime.
Les chansons que j'aime.
C'est un super album, ça.
Oui, oui.
Et vous avez repris cette variété.
Oui, et j'en chante tout le temps. Je chante tout le temps. Bon, Mamoum, j'avais enregistré, mais c'est vrai que je chante tout le temps les chansons d'autres gens. Parce que j'ai eu Piaf, parce que j'ai eu Trenet, parce que j'ai adoré Chevalier, parce que même au jour d'aujourd'hui, il y a des jolies chansons. Hein.
Je t'appartiens, j'y pense, qui est aussi sur ce disque. Magnifique version.
Ouais. J'avais le trac le jour où je lui ai chanté « Je t'appartiens » à Beko. Ouais. Parce qu'on lui rendait hommage à la SACEM et j'étais un peu ému là.
Ok. Ah ouais, il était content? Il était fier?
Ouais, ouais, ça va. Mais c'est pareil que le jour où il a fallu, sous un chapiteau, rendre hommage à Ferrat, qu'est-ce que je lui ai chanté? Je lui ai pas chanté « Maman ». Je crois que je lui ai chanté « Que serais-je sans toi » ou un truc comme
que
ça.
Que vous chantez régulièrement sur
ouais,
scène
ouais, que
aussi.
Je chante, mais là j'étais face à Ferrat et ça allait comme ça. En fait, je suis un timide, quoi. Voilà.
Ouais. Et puis, vous, à la fin des années 70, début 80, vous prenez votre indépendance
À partir de 74.
D'accord.
74, comme on dit chez vous, ici. À partir de 74, j'ai commencé à envisager de me produire. Donc, j'ai été produit, mais distribué chez Barclay. Je suis resté chez Barclay, mais je n'avais pas le même statut. On m'avançait l'argent pour les séances d'enregistrement. Je faisais mes disques, j'enregistrais ce que je voulais, comme je voulais. Mais l'anecdote que j'ai souvent racontée, c'est l'anecdote de mon vieux, en réalité. Parce que un jour, je suis allé voir Barclay et je lui ai dit, voilà, j'ai proposé 12 chansons. Quand c'était comme ça, on arrivait avec la guitare, chanter les chansons. Et puis, la maison de disques a dit, écoute, celle-là, tu les enregistres, même si tu ne veux pas, ce sont les tiennes, mais tu les enregistres, et tu choisis 6 chansons. Et j'en ai choisi, et il y en a une où on m'a dit, celle-là ne marchera pas parce qu'elle est démodée, c'était mon vieux. Donc je suis allé voir Barclay, je dis, j'ai un problème là, maintenant je vais avoir du mal à travailler avec l'équipe. Ce n'est pas parce qu'ils sont bêtes et méchants, c'est parce que si on me dit ça ne marchera pas alors que c'est en train de faire un carton, il m'a dit, pas de problème, tu deviens producteur. Donc on a eu un statut de producteur. Et le statut n'était pas le même. Au niveau de la retombée financière, quand ça marchait, ce n'est pas la même chose.
Mais il y a une période à vide quand même, avant le Gitan.
Oui, mais ça n'a pas duré longtemps parce que j'étais autonome en 1974. J'ai produit et j'ai commencé par quelque chose qui ne marchait pas. C'est « Je t'aime, tu vois ». Pour commencer comme distributeur.
Ça a marché.
Comme producteur. Oui. Non, producteur. Après, je suis devenu distributeur dans les années 80, c'était plus compliqué.
Ah ouais.
C'était beaucoup plus compliqué parce que j'ai fait le Gitan en 83 quand même, mais c'était plus compliqué. Là, il fallait aller les hypermarchés, les représentants, la structure, enfin bon, tout ça, c'était compliqué. Mais ça marchait.
Et il y a des chansons, on parlait tout à l'heure, qui sont peut-être moins connues. Je pense à J'aimerais.
Ah, c'est adorable ça. C'est la chanson préférée de mon épouse. C'est la chanson préférée de mon épouse et c'est une des chansons qui fait le plus de succès sur scène.
Ah, j'aime beaucoup cette chanson. Qu'est-ce qu'elle a quelque chose de particulier? C'est une vieille chanson, je crois que c'est dans les années 80 que j'avais enregistré.
90, oui.
90?
Oui, les années 90. Ça fait plus de 30 ans quand même.
Ouais. Vous savez pas expliquer. Comme reste.
On peut pas expliquer parce que j'avais envie de faire cette chanson. On a fait une musique. François Auren a fait une musique avec Michel Jouvaux. On s'est fait un texte là-dessus et voilà. Et c'est devenu ce que c'est devenu. Les chansons, ça s'explique pas.
Ouais.
Franchement, c'est difficile. Après, il faut constater. C'est un énorme succès. Les gens adorent. Les gens ont de l'émotion. Faut respecter ça.
Comme reste, tiens aussi, qui est la chanson préférée de votre fils, là. Gabriel, je crois.
C'est Gabriel, oui. Ouais. C'est en pensant à mon beau-père qui s'en allait, qui allait mourir, oui.
Et puis vous avez fait dans cette chanson, vous le dites souvent, c'est on peut penser à une copine, on peut penser à un
exactement,
papa.
C'est exactement le commentaire que je fais pour l'annoncer à cette chanson, parce qu'une chanson, il m'est arrivé souvent de comprendre le sens d'une chanson d'un autre artiste très longtemps après. Je trouvais que c'était super. Puis je me dis, merde, il parle de ça. Mais parce que la phrase me plaisait, que je la fredonnais, et une chanson, vous l'interprétez comme vous voulez. Il y a des choses que je ressens, mais que vous ne ressentirez pas.
Ouais.
Vous allez l'interpréter autrement. C'est ça, la liberté d'une chanson.
C'est un partage. De toute façon,
complètement, oui, oui, tout à fait.
Vous ne faites pas ce métier, enfin, vous n'aurez pas eu une telle carrière s'il n'y avait pas ce partage. Et...
Il y a ça, et puis il y a aussi ma façon d'être. C'est-à-dire qu'un jour, on m'a posé la question si je faisais ça pour l'argent. J'ai dit non, parce que pour être le plus riche de ce métier, il faut faire autrement. Moi, j'ai fait ce que je voulais, avec toutes les marges d'erreur, mais alors toutes les réussites, j'étais très content. Et à partir de ce moment-là, les gens savent que je suis comme je suis. On me prend, on m'aime pas, bon, c'est pas grave. Mais si on me pose des questions, je réponds.
Et quand vous sortez en 2012 Notre Histoire, est-ce que ça vous correspond bien, se quitter pour se retrouver ? C'est notre vie, c'est notre histoire.
Ah, c'est exactement ça. C'est la chose la plus simple qui soit dans la vie. Vous pouvez pas avoir de plaisir à vous retrouver si vous partez pas.
Vaut mieux retrouver quelqu'un que la trouver, peut-être.
Ben, parce qu'il y a de l'usure.
Ouais.
Parce que vous pouvez, en restant avec les gens, vous finissez par avoir leurs défauts. Et quelquefois, les défauts, vous n'en voulez pas. Mais vous pouvez supporter quelqu'un que vous aimez bien avec ses qualités, ses défauts, parce que vous ne le voyez pas tous les jours.
Et dans vos chansons, il y en a une qui a la préférence ? On en a cité quelques moins connues. Non,
parce que c'est une question qu'on me pose souvent, un peu à la con, c'est vrai. Mais parce qu'on a envie de dire, il y a une préférence. Il n'y en a pas. Est-ce que vous avez une préférence pour vos enfants ? Non. Les enfants, ils me causent autant de problèmes les uns que les autres, et les années passent, et c'est pas pour autant que mes sentiments sont différents.
Ouais.
Et puis, ça dépend des jours. Il y a des jours où vous n'aimez pas vos gosses, parce qu'ils vous gonflent. Puis il y a des jours où vous ne pourriez pas vous passer d'eux. Ben, c'est pareil pour les chansons.
On l'a évoqué, cette période où vous êtes devenu indépendant. Vous avez vu aussi peut-être partir pas mal de copains. Je crois que vous avez dit dans une interview que vous avez tout stoppé dans les années 80.
Oui, j'ai arrêté. C'est parce que tout ce qui était autour était insupportable.
D'accord.
C'est-à-dire la route, les kilomètres, les gens, l'organisation, la façon de considérer. Parce que c'est quelque chose d'important. Quand vous allez chanter, c'est comme quand vous êtes le comédien, il faut vous concentrer. Vous avez besoin d'être dans un contexte agréable. Sinon, ce que vous allez laisser transparaître, c'est quelqu'un d'énervé, d'agressif, et que c'est pas bon. Et tout ce qui était autour me gonflait. Et puis, il y avait ces périodes, quelques années auparavant, où j'avais fait énormément de spectacles.
Ouais.
Et quand vous faites le point, vous avez les problèmes fiscaux, vous avez les erreurs de parcours. Vous dites, attends, ça va, stop. Je vais pas passer ma vie sur les routes. Je vais pas passer ma vie à me disputer avec les abrutis uniquement pour le plaisir de chanter. Alors, ça n'a pas duré longtemps, mais pendant quelques années, j'ai arrêté de chanter. Oui.
Pour vous reconcentrer et par rapport à peut-être à ce showbiz qui
c'est
dont
pas
se concentrer, on parle
beaucoup. Se recentrer.
Recentrer.
Non, mais le showbiz m'a jamais vraiment emmerdé.
D'accord.
Je le fréquentais pas, donc. Voilà. Non, mais franchement, non. C'était pas. Peut-être que c'est une réaction de timide. Hein. Mais je me sentais pas à l'aise. Je me sentais pas à l'aise à faire des fausses fêtes. C'était pas mon truc.
Et encore aujourd'hui, là, vous parcourez vos routes.
Ouais. Là pour Bruxelles, je suis venu en avion, aéroport magnifique. Bruxelles, toujours en travaux. Ça fait 50 ans que je connais la ville, elle est toujours en travaux quelque part. Mais bon, j'adore la Belgique.
Pour retrouver votre public, quand il y a trois générations dans une salle.
Minimum.
Vous dites que vous avez réussi quelque chose quand même.
Non, il s'est passé un truc.
Ouais.
Je ne sais pas si. Est-ce que c'est réussir ? C'est pas ça. Il s'est passé humainement un truc. Vous pouvez faire des chansons, des choses qui émeuvent des gens, toute la famille, et il y en a d'autres qui ne vous aiment pas, ou d'autres qui s'en foutent, ou d'autres qui ne savent pas qui vous êtes, mais ça n'a aucune importance. L'essentiel, c'est que je n'ai pas l'esprit de famille, parce que quand j'étais gosse, on n'avait pas l'esprit de famille. Je n'ai pas de famille, en fait. Il y a mon père, ma mère, on n'avait pas de cousins, pas d'oncle, pas de tante. Donc je ne sais pas ce que c'est. Mon épouse, elle avait une grande famille avec plein de cousins et de choses comme ça. Donc je n'ai pas ce sens de la famille. Mais par contre, quand vous arrivez et que vous chantez et que vous vous rendez compte que tous ceux qui sont en face de vous, ils viennent parce qu'ils vous aiment un petit peu ou beaucoup quelque part, pas mal quand même. C'est une espèce de réunion de famille qu'on fait.
Et la transmission avec les enfants, là, les jeunes qui... Vous faites souvent des émissions de variété, des émissions de télévisées où on voit des jeunes reprendre vos chansons.
Oui, mais c'est bien, je suis content. Je suis content, mais je n'irai pas les emmerder en leur disant comment il faut la chanter.
Bien sûr.
Ils font exactement ce qu'ils veulent. Mais c'est bien. Je commence franchement à être considéré comme vieux chanteur avec le respect, c'est sympa. Quand on est arrivé là tout à l'heure, c'était au départ de Toulouse. Au départ de Toulouse, il y avait la sécurité qui regarde les bagages, des trucs comme ça. Il y avait une femme, très belle femme, une cinquantaine d'années, qui était avec un jeune d'une trentaine qui était à côté d'elle. Et puis, elle me voit, et puis elle regarde, elle dit, tu sais qui c'est? Et puis, elle voit sur le dos de mon équipe, il y a Daniel Guichard, parce que...
DG Prod.
Ouais, non, Daniel Guichard, parce que c'est l'équipe comme ça. Et puis, elle dit, mais tu sais pas, c'est un monument de la chanson. Et moi, ça m'a toussé, ça m'a fait marrer. Si c'est un monument, bon, il va falloir commencer à nettoyer au Kärcher, parce que non. C'est quand même sympa. Mais c'est à part Trenet et quelques autres qui ont eu ce qualificatif, c'est sympathique. Et bon, compte tenu des années, je vais avoir 77, comme on dit chez vous. Donc 77 ans, ça va, ça ne me perturbe pas particulièrement.
Hein. Ouais. Et puis vous remontez, voilà, toujours sur scène, le public vous suit. Est-ce que j'ai pensé à ça? Est-ce qu'il y a un duo que vous auriez aimé faire, vous n'avez jamais pu faire? Un chanteur vous dit, merde, celui-là, je passe à côté.
Je suis pas duo.
Ah, vous n'aimez pas?
Non, okay. Non. Ah non, c'est pas que j'aime pas, je sens pas le duo. J'en ai fait avec Claude François, j'en ai fait avec des copains, parce que on a quand même fait quelques émissions de télé où c'était naturel. Mais c'était naturel. On faisait des radios, des télés où c'était naturel, on prenait une chanson, on chantait les uns les autres, c'était marrant. Puis ça s'est perdu. Et après, c'est devenu un numéro de représentation. Le seul duo qui me vient à l'esprit tout de suite pendant qu'on se parle, j'ai vu Hugo Frey à Béziers il y a quelques mois. Il est passé et puis bon, on s'est parlé dans les coulisses avant qu'il aille chanter. Moi, à 15 ans, je chantais toutes ses chansons, donc c'était c'est un personnage, c'est un des rares personnages qui il y avait Aznavour, il y avait lui. Bon, et on discutait et lui finit son tour de chant, les gens tous debout, ils l'applaudissent et puis il était en train de dire je vous remercie là. Puis dans la salle, j'avais Daniel Guichard. Et puis moi, j'étais en bas de la scène, j'ai dit, je suis là. Ah, bah tu es là. Bon, alors, je me suis fait monter sur scène et on a chanté Santiano tous les deux. Je lui ai dit, ça, c'est un truc que j'aurais voulu faire. Tu l'as chanté tout à l'heure, mais on peut la refaire. Et on a chanté Santiano. Ça me tient à cœur. Ce duo-là m'a plu beaucoup.
Peut-être parce qu'Hugo Frey, il vous ressemble dans la manière de faire ses tournées aussi, dans la manière de gérer sa carrière.
On a parlé camping-car avec lui il y a quelques mois parce qu'il dit, j'ai envie de faire comme toi, d'avoir un véhicule pour aller partout. Bon, moi, j'ai un truc, il est immense, c'est un poids lourd, mais c'est comme ça. J'aime pas l'avion, j'aime pas le camping-car, c'est bien.
Et cette manière de se déplacer, peut-être aussi, c'est un peu, c'est facile ce que je vais vous dire, c'est un peu le gitan qui est en vous, est-ce que ça vous...
C'est un genre, c'est-à-dire, je suis dans ma maison. J'ai aucun souci de loge, je me mets derrière la salle de spectacle, je vais faire le chanteur. Quand c'est fini, je remonte dedans et je dors. Et je repars le lendemain.
Aujourd'hui, le dernier album date de 2012.
Ouais.
Est-ce que vous avez sorti quelque chose pour le juste après le Covid?
Non, j'ai fait des chansons. Non, j'ai enregistré les chansons que j'ai fait sur scène. Okay. Mais je pense qu'il y a des trucs qui se feront, pas de problème. La Terre continue de tourner, vous inquiétez pas.
Et ça vous branche pas de refaire un album?
Si, je suis en train de ramer dessus. Oui.
Ok.
Oui, non, mais peut-être l'année prochaine, oui.
J'espère.
Ah oui, moi aussi, mais je me suis pas mis la pression plus que ça, quoi. Si ça vaut pas le coup, c'est le problème qui est important, qu'il faut prendre en considération honnêtement, c'est que la barre qui doit pas être prise en dessous, c'est la tendresse, faut pas pleurer, chanson pour Anna, mon vieux, je t'aime, tu vois, le gitan. Et je viens pas te parler d'amour, vous voyez ce que je veux dire? Il faut pas que ça soit inférieur à ça.
Dans la création, vous parlez?
Dans la qualité finie.
D'accord.
C'est-à-dire, peu importe le sujet, peu importe, mais entre la mélodie, les mots, l'émotion, la vérité, la sincérité, la qualité d'enregistrement, la finition de la chose, ça doit pas être inférieur. La barre, elle est haute, hein.
Et alors, si
c'est...
Vous
avez... Non, c'est pas la... mais ça, c'est pas la question. Mais faire des chansons pour des chansons, j'en ai fait quelques-unes que je chante sur scène, puis à un moment je les chante plus, puis je les rechante de nouveau. Vous savez, une chanson, c'est pas compliqué, même si elle est super jolie et tout. Quand vous êtes sur scène et que vous la chantez, si ça passe pas vraiment, l'énergie, vous le sentez. Même une chanson comme J'aimerais, vous citiez tout à l'heure, Ce n'est pas adieu, boum, ça tombe tout de suite, et là, vous savez, il se passe des trucs.
À coup de poing, elle me revient aussi.
C'est là, Gabriel. C'est mon fils qui a fait la musique.
C'est votre fils qui a fait la musique? Et là, vous montrez que vous pouvez encore faire des chansons.
Ah oui, mais vous pouvez faire des chansons que les gens ne connaissent pas et qu'ils ressentent dès les premières notes. Et ça vaut le coup de les faire sur scène. J'ai rien inventé avant moi. Il y en a d'autres comme Piaf, comme Trenet, Brel, Chevalier, qui faisaient des chansons pour le tour de chant. Et une chanson pour le tour de chant, ça doit être... Et Annie Cordy, on en parlait tout à l'heure. Quelle grande bonne femme. Donc la chanson, elle arrive, boum, elle tape, et il y a l'émotion, il y a la sincérité. Vous pouvez faire des chansons joyeuses, heureuses, tristes, monstrueusement dures, vous pouvez les faire. Ouais. Mais il faut que dès les premières mesures, vous tapez juste. Sinon, le spectateur, il dit rien, mais vous sentez que ça marche pas.
Et ça se voit depuis toutes ces années de carrière. Voilà, pour clôturer cette émission, j'essaie de rebondir sur une chanson à chaque fois. Je lui dis non, je vais simplement lui poser la question. À votre public qui vous suit, qui vous écoute sur Mélodie aussi, qu'est-ce que vous aimeriez lui dire finalement ?
Ben, merci. C'est le remerciement que je fais chaque soir de spectacle en chantant « Que serais-je sans toi qui vins à ma rencontre ?» C'est une réalité. C'est cette chanson, le poème d'Aragon, musique de Ferrat, c'est « Merci ». J'en espérais pas tant. Je me suis bien marré. Je voulais faire chanteur. J'ai fait chanteur. Je voulais que ça marche. Ça a plutôt pas mal marché. Et même quand ça marchait pas, il y avait des gens qui étaient là. C'est la différence qu'il y a entre être populaire et avoir du succès. Des fois, vous avez du succès, j'en ai eu souvent avec des chansons qu'on cartonnait, mais être populaire, c'est le chauffeur de taxi qui met un coup de klaxon et qui vous fait un petit coucou. Et des fois, quand il y a des gens avec moi, ils me disent « Tu le connais ?» Non, mais lui, il sait qui je suis. Alors, c'est pas pour autant qu'il a 80 ans. Hein. Il peut en avoir 40, mais il va faire ce que vous disiez tout à l'heure, trois générations. Il est de la deuxième ou de la troisième génération qui connaît. Alors, il connaît peut-être qu'une chanson. Et il y a souvent plein de gens qui me font, comment dire, des comportements gentils, humains, qui n'ont jamais acheté un disque. Jamais. Ils sont venus me voir une fois au spectacle, peut-être. Mais ils m'ont entendu dans des interviews, ils m'ont vu dans des émissions. Ils ont des membres de leur famille qui aimaient bien. Ils n'ont jamais été déçus par la façon dont je me comportais. Bon, ça suffit pour que les gens disent bonjour.
L'honnêteté dans tout ça.
Ouais, sincérité, oui. Mais on finit pas le plus riche, hein, je vous le dis tout de suite.
Merci Daniel Guichard d'avoir été sur Mélodie.
Plaisir.
Mélodie, la radio vintage forever.